Bonjour et bienvenue à ce journal présenté par Nanit Talani. Au programme ce matin, direction le Mozambique où des manifestations ont éclaté suite à l'annonce de la victoire de Daniel Chapo à la présidence. Le Nigeria en deuil, Ama Amadou, vétéran de la politique, s'est éteint après une carrière tumultueuse. Au Portugal, la mort de Noir lors d'une intervention policière a provoqué des troubles sans précédent. De l'autre côté de l'Atlantique, l'opposition canadienne critique le gouvernement Trudeau pour sa réduction du système d'immigration. Au Nigeria, les conducteurs sont confrontés à des défis majeurs pour adopter les véhicules au gaz naturel comprimé, alors que le Togo se dote d'une stratégie nationale de cybersécurité après des pertes de 1,5 milliard de francs CFA à suivre dans nos dossiers du jour. Dans notre rubrique économique, le Soudan du Sud se prépare à reprendre ses exportations de pétrole. Sur le terrain, le Nigeria s'apprête à affronter les États-Unis en quart de finale du mondial féminin des moins de 17 ans. Restez à l'écoute pour le développement de ces titres. Tout de suite, le journal. Au Mozambique, Daniel Chapo, ancien gouverneur provincial de 47 ans, sera le prochain président. La commission électorale l'a déclaré vainqueur hier, plus de deux semaines après le scrutin du 9 octobre contesté dans la rue et entaché de nombreuses irrégularités d'après les observateurs. Mouamadou Oumfa nous en dit plus.
Investi par le Frelimo au pouvoir depuis un demi-siècle, Daniel Chapo a obtenu près de 71% des voix contre 20% des suffrages pour l'opposant Venancio Mondlane. L'abstention a été massive, moins d'un électeur sur deux s'est déplacé avec une participation estimée à 44,48%. À l'annonce de sa victoire, des centaines de manifestants protestant contre des fraudes ont pris la direction du centre Maputo où la commission électorale délivrait les résultats. Le dispositif de police leur barrant la route a tenté de les disperser avec des gaz lacrymogènes, des pneus ont été incendiés, des panneaux électoraux déchirés et des projectiles envoyés vers les forces de l'ordre. Daniel Chapo va prêter serment en janvier prochain. Au Parlement, le Frelimo s'est adjugé 195 sièges sur 250, soit 78% des députés. Podemos, porté par Venancio Mondlane, a ravi au parti historique Renamo le statut de premier parti d'opposition avec 31 sièges contre 20 pour l'ex-faction rebelle.
L'ex-premier ministre du Niger, Ama Amadou, l'un des dinosaures de la politique du pays, est décédé mercredi soir à Niamey à l'âge de 74 ans, ont annoncé hier plusieurs de ses proches. Plus de détails avec John Lindon.
Jeudi, la télévision publique a suspendu ses émissions pour diffuser de la musique religieuse et des lectures du Coran, comme elle le fait habituellement après le décès de personnalités dans ces pays majoritairement musulmans. Une cérémonie aura lieu ce vendredi à la présidence avant l'enterrement à Youri, village peul natal de Ama Amadou, situé près de Niamey, a annoncé son parti. Ama Amadou avait également dirigé l'Assemblée nationale de 2011 à 2014 sous Mahamadou Issoufou avant de se brouiller avec ces derniers, devenant ainsi un farouche opposant à Mohamed Bazoum, qui a succédé à Issoufou. L'ancien président Issoufou, qui, dans un message posté sur sa page Facebook, a dit pleurer la perte d'un de ses meilleurs adversaires. Ama Amadou avait plusieurs fois connu la prison, notamment en 2021, où il avait été accusé d'être l'un des responsables des troubles ayant suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Parce qu'il était malade, la justice lui avait accordé une autorisation pour se soigner dans un hôpital parisien. Il était rentré au Niger en septembre 2023, peu après le renversement de Mohamed Bazoum.
Les autorités camerounaises ont annoncé l'ouverture d'une enquête après la diffusion d'une vidéo virale montrant des actes de torture infligés à Longué Longué, un chanteur populaire. La vidéo, qui date de 2019, montre l'artiste immobilisé et violenté par des individus identifiés comme membres des forces de sécurité. L'artiste n'a pas confirmé l'authenticité des images et a refusé de commenter. La vidéo a suscité de vives réactions, notamment de la part de responsables politiques appelant à des enquêtes et à des sanctions. Le ministère de la Défense a promis que les responsabilités seront établies en fonction des résultats de l'enquête. Une étude publiée dans la revue Cell révèle que les épidémies de Mpox en Afrique présentent deux modes de transmission distincts. En RDC, les cas humains de Mpox sont alimentés par deux schémas. L'un concerne le clade 1 qui circule depuis des décennies, tandis que l'autre est lié à un nouveau variant, le clade 1B, qui se transmet principalement entre humains. Les contaminations animales restent majoritaires. Pour la version plus ancienne du virus, plusieurs épidémies sont actuellement en cours en RDC et dans les pays voisins.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités portugaises se sont dites prêtes hier à user de tous les moyens pour mettre un terme aux troubles survenus ces trois dernières nuits dans plusieurs banlieues de Lisbonne après la mort d'un homme noir dans une opération policière. Les précisions de Rosine Munezero.
Tous les moyens dont l'État dispose pour garantir la sécurité des personnes et des quartiers vont être déployés, a déclaré le ministre porte-parole du gouvernement, Antonio Letao Amaro, à l'issue d'une réunion avec les maires des communes de la région métropolitaine de la capitale portugaise. Plusieurs quartiers défavorisés de la banlieue de Lisbonne ont connu de nouvelles émeutes qui ont fait 3 blessés parmi la population, selon la police. Les forces de l'ordre ont par ailleurs effectué 13 nouvelles arrestations depuis le précédent bilan sur ces violences rares au Portugal qui ont secoué plusieurs quartiers périphériques où vivent d'importantes communautés issues de l'immigration. Ces troubles ont été déclenchés par la mort, dans la nuit de dimanche à lundi, d'un homme de 43 ans, originaire du Cap-Vert, tué par balle après avoir essayé de fuir la police et tenté d'attaquer des agents à l'arme blanche, selon la police. Plusieurs mouvements antiracistes et associations des banlieues ont annoncé hier la tenue d'une manifestation pacifique, samedi, dans le centre de Lisbonne, pour protester contre la violence policière.
Traditionnellement perçue comme une terre d'accueil pour les immigrants, le Canada a annoncé hier une réduction considérable de 21% du quota de résidents permanents qu'il accueillera dès 2025, reflétant un changement de cap face à une opinion publique de plus en plus réticente à l'immigration. Davantage avec Jacques Aristide.
L'immigration est essentielle pour l'avenir du Canada, mais elle doit être contrôlée et durable, a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau avant de dire que cette réduction se traduira par une pause dans la croissance de la population au cours des 2 prochaines années. La mesure fait suite à plusieurs séries de restrictions visant à contenir des niveaux d'immigration records qui ont porté le nombre d'habitants à plus de 41 millions au début de l'année contre environ 35 millions il y a 10 ans. Dans la période tumultueuse qui a suivi la pandémie de COVID-19, nous n'avons pas réussi à trouver le juste équilibre entre les besoins en main-d'œuvre et le maintien de la croissance démographique, a reconnu le chef du gouvernement canadien. Pour son ministre de l'Immigration, Mark Miller, ce plan permettra de soulager la crise du logement et répond à de nombreuses critiques reçues par le passé. De son côté, le leader de l'opposition conservatrice, Pierre Poilievre, soutient que Justin Trudeau a détruit le système d'immigration et que le volte-face est un aveu d'échec.
Kamala Harris et Donald Trump quitteront ce vendredi les circuits de campagne habituels pour se rendre au Texas. La démocrate Harris, 60 ans, y parlera du droit à l'avortement lors d'un meeting à Houston où elle sera rejointe par la superstar Beyoncé après un rassemblement à Atlanta avec Bruce Springsteen. Le républicain Trump, 78 ans, critiquera la crise migratoire depuis Austin en mettant l'accent sur la sécurité de la frontière sud des États-Unis. Il enregistrera également un podcast avec Joe Rogan, un animateur très apprécié par le public masculin. Le président russe Vladimir Poutine a jugé hier que sa relation avec les États-Unis dépendrait de l'attitude de Washington après l'élection américaine et, à moins de 2 semaines du scrutin, a salué la sincérité, selon lui, du candidat républicain Donald Trump pour sa volonté d'instaurer la paix en Ukraine. Le Venezuela a déclaré hier le veto du Brésil à son intégration dans les BRICS lors du sommet de Kazan, qualifiant cette décision d'agression. Les autorités fédérales américaines ont annoncé hier avoir obtenu plus de 100 millions de dollars de dédommagement à Baltimore en mars du pont autoroutier. Voilà pour les nouvelles. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Restez avec nous pour un tour d'horizon des développements économiques avec Lionel Gaïma.
Le Mali accuse Barrick Gold de ne pas avoir respecté un accord récent concernant les mines de Loulo et Gounkoto. La société canadienne est accusée de ne pas honorer ses engagements, notamment sur des questions environnementales et de responsabilité sociale. Bamako a également évoqué l'expiration d'une des licences en 2026 de Barrick. La société a nié hier toutes les allégations et a réaffirmé son engagement envers l'État malien, indiquant lui avoir versé 1,5 million d'euros. Le Soudan du Sud reprendra bientôt ses exportations de pétrole brut via un port soudanais après la réparation d'un oléoduc essentiel endommagé lors des combats au Soudan. Cette situation a entraîné une contamination de l'environnement et une hausse des prix des denrées alimentaires dans une région déjà en proie à des difficultés. Le pays exporte généralement 100 000 à 150 000 barils de pétrole brut par jour. Ici aux États-Unis, le département du Trésor a annoncé jeudi qu'il autoriserait certaines sociétés minières à bénéficier d'un crédit d'impôt visant à stimuler la production américaine des panneaux solaires, des batteries lithium-ion et d'autres composants d'énergie propre. Cette annonce fait suite aux pressions exercées par l'industrie minière qui a fait remarquer que la transformation est impossible sans l'extraction préalable de minerais.
Passons maintenant à l'actualité sportive présentée par Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
La CAF a publié la liste des nommés pour le titre de joueur africain de l'année.
Oui, 10 joueurs ont été présélectionnés pour le prestigieux titre de joueur africain de l'année. Amine Gouiri de l'Algérie et du Rennes, Edmond Tapsoba du Burkina Faso et du Bayern Leverkusen, Simon Andegra, l'Ivoirien de Brighton, Chancel Mbemba, le Congolais de l'Olympique de Marseille, Serou Girassi de la Guinée et du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, le Marocain du Paris Saint-Germain, Soufiane Raimi, l'autre Marocain de Al-Ain, Ademola Lookman du Nigeria et de l'Atalanta Bergame, William Tross et Kong, toujours du Nigeria et de Al-Koloud, et Ronwem Williams d'Afrique du Sud et de Mamelodi Sundowns.
Ce dernier, portier sud-africain, est nommé dans trois catégories.
Ronwem Williams, brillant lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, est en lice pour les titres de joueur de l'année, gardien de but de l'année et joueur interclub de l'année. D'après le site de la CAF Online, les lauréats de chaque catégorie seront désignés par un vote émanant d'un panel diversifié, comprenant la commission technique de la CAF, des professionnels des médias et les entraîneurs et capitaines des associations membres et les clubs participant aux phases de groupe des compétitions interclubs. L'attaquant nigérien Victor Osimhen a été couronné joueur africain de l'année en 2023, tandis que sa compatriote Aziza Oshoala a été distinguée en tant que joueuse africaine de la CAF. Prévu se tenir le 16 décembre prochain à Marrakech au Maroc, les CAF Awards 2024 couvrent la période s'étendant de janvier 2024 à octobre 2024.
Des nouvelles du mondial féminin des moins de 17 ans. Le Nigeria affronte les États-Unis en quart de finale.
Qualifié pour les quarts après 3 victoires en 3 matchs de poule, les Super Flamingos, qui ont fini leader de la poule A, doivent élever le niveau devant les redoutables Américaines demain samedi. Dans les autres rencontres des quarts de finale, la Corée du Sud affronte la Pologne, l'Espagne fait face à l'Équateur et le Japon joue contre l'Angleterre. Le Nigeria est désormais le seul représentant de l'Afrique dans ce tournoi après l'élimination du Kenya et de la Zambie.
Pour terminer, Yakuba, cette mauvaise nouvelle pour Amine Adli.
Blessé mercredi contre Brest en Ligue des Champions, l'international marocain du Bayer Leverkusen a été opéré hier et ne rejouera plus en 2024 selon un communiqué du club allemand. Amine Adli a été victime d'une fracture du péroné gauche, précise le club champion d'Allemagne en titre. L'ailier de 24 ans était entré en jeu en seconde période et n'a passé que 18 minutes sur le terrain avant de se blesser. Il avait participé à chacun des 11 matchs officiels de Leverkusen depuis le début de la saison.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie pour explorer nos dossiers du jour. La Côte d'Ivoire n'a plus subi d'attaques terroristes depuis 3 ans. Le pays a renforcé la sécurité au niveau de ses frontières. Sa politique est soutenue par les États-Unis d'Amérique. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Noumenio.
Nous sommes à Ouangoulodougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Seydou et sa famille ont trouvé refuge ici après avoir fui les exactions terroristes au Burkina voisin. Aujourd'hui, il se sent en sécurité et ne manque pas d'exprimer sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes.
Nous remercions vraiment très correctement le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et nous remercions toute la population ivoirienne qui est un pays d'accueil, un pays de paix, qui nous a vraiment accueillis pour essuyer nos larmes. Vraiment, nous sommes vraiment très satisfaits, nous sommes vraiment très content d'eux et que nous les remercions et que nous les souhaitons qu'Allah les protège, qu'Allah les accorde tout ce qu'ils souhaitent et les évite de toute calamité, de tout ce qu'ils ne voudront pas.
La dernière attaque terroriste a eu lieu en juin 2021 dans la localité de Téini, à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina. Depuis, les autorités ivoiriennes ont pris des mesures pour parer à d'éventuelles attaques et sont aidées dans leur démarche par les États-Unis d'Amérique. Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire.
Les groupes armés terroristes évoluent dans leur méthode. Il nous faut donc avoir en permanence des capacités mises à jour. Et pour le faire, c'est le partage d'expérience, le partage de savoir-faire avec d'autres unités qui permettent à nos unités spécialisées d'être à jour. Anticipation aussi sur l'obligation de coopérer sur le terrain des opérations et qui exige donc une certaine interopérabilité entre les unités qui sont déployées sur le terrain des opérations.
Et le pays n'hésite pas à partager son expérience en matière de sécurité, comme à ce forum sur les frontières à Abidjan. Diakalidia Konaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire.
Alors ce forum est une opportunité pour nous, en tant que Commission nationale des frontières et en tant qu'Ivoirien, d'apporter notre contribution à la résolution des problèmes aux frontières, à la recherche de solutions, à la création de cadres de réflexion et cadres de partage d'expériences. Et Abidjan Border Forum est vraiment bien à propos. Et tous les experts du continent, les universitaires, les chercheurs et même les communautés, les organisations professionnelles, pour leur permettre d'échanger, de renforcer leur coopération.
Pour contrer la menace, ces derniers mois, une dizaine de djihadistes présumés ont été interpellés par les forces ivoiriennes dans la zone frontalière du Burkina Faso. Ange Bijounoméyan pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Les autorités nigérianes prévoient de convertir 1 million de véhicules à essence au gaz naturel comprimé, moins cher et plus propre, d'ici à 2027. Le Nigeria dispose de réserves de gaz parmi les plus importantes au monde. Mais avec seulement quelques stations de remplissage dans le pays, beaucoup de ceux qui ont converti leurs véhicules sont confrontés à un nouveau défi. Reportage de Timothy Obiezu. Récit de Michel Joseph.
Au Nigeria, c'est devenu très banal de voir de longues files de véhicules faire la queue sur des centaines de mètres pour obtenir de l'essence. Mais dans l'un des rares centres distribuant du gaz naturel comprimé dans tout le pays, c'est bien différent. Ici, des conducteurs désespérés espèrent obtenir du gaz naturel comprimé. Certains camionneurs, comme Yahaya Ibrahim, font la queue depuis 5 jours.
We drop load for Katsina.
Après avoir déposé mon chargement dans l'état de Katsina, je suis venu ici parce que l'essence qui me reste ne me permettra pas de retourner dans l'état de Kogi, d'où je viens.
Abdoulaye Achirou, chauffeur de taxi, a converti son véhicule il y a 3 mois et ne dépense qu'un tiers de son budget quotidien en essence pour rouler au gaz naturel. Mais obtenir du gaz naturel comprimé est devenu comme un parcours de combattant.
Je suis ici depuis 11 heures. Quelle heure est-il maintenant? Il est presque 16 heures, juste parce que j'essaie d'acheter du GNC.
Le Nigeria possède les plus grandes réserves de gaz naturel d'Afrique, près de 200 trillions de mètres cubes. L'année dernière, peu après avoir supprimé les subventions sur le carburant, le gouvernement a lancé une initiative de transition vers le gaz naturel qui prévoit en 3 ans la mise en circulation 1 million de véhicules roulant au gaz naturel comprimé. Le gaz naturel est une alternative moins chère et plus propre pour les Nigérians. Mais les autorités de régulation affirment qu'il existe moins de 50 stations de compression de gaz naturel comme celle-ci pour les plus de 200 millions de Nigérians qui tentent de remplacer les combustibles fossiles coûteux comme l'essence et le diesel. Les prix de l'essence ont été multipliés par 6 depuis que le gouvernement a supprimé son programme de subvention l'année dernière, ce qui a incité un plus grand nombre de personnes à passer au gaz naturel. Il existe actuellement environ 130 centres de conversion et les autorités ont pour objectif d'en créer des centaines d'autres dans tout le pays d'ici à 2027. Mais beaucoup, comme Omatayo James, un habitant d'Abuja, estime qu'il n'est pas nécessaire de passer au gaz naturel combustible s'il n'est pas facilement disponible.
Nous devrions au moins avoir 7 points à Abuja qui fonctionnent avant de commencer à solliciter des conversions. C'est une route fédérale qui mène à l'aéroport. Je ne sais pas comment le président Bola Ahmed Tinubu se rend à l'aéroport et il voit des gens sur la route comme ça.
Le mois dernier, le gouvernement a annoncé un plan visant à lever 250 millions de dollars d'ici 2027 pour soutenir le développement de l'infrastructure GNC, gaz naturel combustible. Mais beaucoup disent que cette intervention ne viendra jamais assez tôt.
Au Togo, les cyberattaques contre les entreprises ou industries ont connu une hausse de 23% l'année dernière. D'après l'Agence nationale de cybersécurité, ces cyberattaques ont causé une perte de 1,5 milliard de francs CFA pour le pays. En réponse à cette évolution rapide des menaces, le pays s'est doté d'une stratégie nationale de cybersécurité. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
Face aux cybermenaces de plus en plus croissantes, diversifiées et complexes, le Togo a créé depuis 2001 l'Agence nationale de cybersécurité et son bras opérationnel Cyberdéfense Africa Togo pour lutter contre la cybercriminalité. Cependant, Gweliba Agbuta, le directeur général de l'Agence nationale de cybersécurité, estime que les entreprises ne prennent pas suffisamment la mesure de la gravité de la chose.
Nous envoyons tous les jours des courriers pour envoyer des alertes. Et on leur explique même les correctifs, les patchs qu'il faut faire. Mais force est de constater que personne ne fait rien. Un mois après, on refait le scan, on retrouve les mêmes vulnérabilités. Et parfois, c'est des vulnérabilités critiques. Et c'est inquiétant à l'allure où vont les cybermenaces et les cyberattaques.
Selon un récent sondage de l'ANSSI, en 2023, 68% des cas d'attaque contre les PME-PMI ont réussi. Bassiné Jassé, correspondant en sécurité système d'information d'une grande banque de la place, redoute plus encore l'utilisation des nouveaux outils comme l'intelligence artificielle par les cybercriminels.
On remarque que cette intelligence artificielle est utilisée pour perpétrer de nombreux crimes. Donc moi, ma question est de savoir quelle est la stratégie qui est actuellement adopté par l'ANSSI ou bien par CDA pour pouvoir permettre ici localement d'avoir des outils qui puissent contrer des attaques cybercriminelles basées sur l'intelligence artificielle.
Palakiem Assi, directeur technique de Cyberdéfense Africa Togo, se veut rassurant et explique que le Togo est aguerri pour faire face à l'utilisation de l'intelligence artificielle associée à la cybercriminalité.
Le Togo a pris toute la mesure sur justement cette question d'intelligence
l'intelligence artificielle. Le dernier événement était en septembre dernier, où nous avons fait justement la démonstration d'une attaque par l'intelligence artificielle, où nous avons utilisé ChatGPT pour perpétrer une attaque de bout en bout. Nous intégrons aussi des mécanismes d'intelligence artificielle pour automatiser, nous aussi, les mécanismes de défense. Donc je ne dirais pas que le Togo est en retard.
Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, l'adoption de la stratégie nationale de cybersécurité est un instrument qui permettra aux autorités de lutter efficacement contre les cybercriminels. Calliste Majulba relève cependant que la cybersécurité doit être l'affaire de tout le monde.
La stratégie est un instrument clé dans cette quête de l'excellence. La réussite de cette stratégie dépend de l'engagement de toutes les parties prenantes, car la résilience face aux cybermenaces ne peut être assurée par les seules institutions publiques.
Selon le classement de l'indice mondial de cybersécurité 2024, publié par l'Union internationale des télécommunications, le Togo est situé dans la catégorie tiers 2 aux côtés des nations comme la Chine, Israël, la Suisse et la Russie. Kossi Wosou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Les expatriés américains au Burkina Faso se préparent à exercer leur devoir civique en votant lors de la prochaine élection présidentielle américaine. Le journaliste Kader Traoré s'est entretenu avec deux expatriés dans la capitale Ouagadougou. Le récit est de Dili Diko.
Mina Anderson est la directrice de l'école internationale de Ouagadougou, l'école américaine de la capitale burkinabé. Ayant longtemps vécu en dehors des États-Unis, elle dit suivre de près les activités liées aux élections dans son pays et se réjouit de voter lors de la présidentielle du 5 novembre.
Beaucoup d'entre nous pensent que cette élection est très importante. Je sais que cet été, j'ai veillé à ce que mon inscription sur les listes électorales soit à jour et intacte. Je me suis rassurée que mon bulletin de vote me parviendrait par voie électronique. Pour certains Américains, il s'agit d'une élection très très importante, qu'ils soient très conservateurs ou très libéraux.
Même à distance, Mina Anderson suit de près les débats et les événements politiques aux États-Unis, consciente de l'influence de la politique américaine sur le paysage politique de l'Afrique où elle vit.
Les politiques de notre gouvernement américain ont un impact non seulement sur ce qui se passe en Afrique, sur les investissements que nous faisons dans les pays, mais aussi sur notre statut. Je vivais au Soudan quand Obama a été élu et j'ai vu pour la première fois tant d'ouverture et de générosité de la part des Africains. Ils étaient si enthousiastes pour notre pays. Alors vous savez, la personne qui dirige notre pays fait définitivement une différence dans la façon dont les gens me perçoivent en tant qu'Américaine à l'étranger.
Elisabeth Zanz est une autre expatriée originaire de la Californie. Elle travaille aujourd'hui comme professeure d'art à l'école américaine de Ouagadougou. Comme Anderson, elle apprécie les discussions politiques animées dans son pays natal et comprend l'impact au-delà de ses frontières.
Je pense que ça sera une élection serrée, mais c'est une élection importante. Je pense qu'il y aura de nombreux défis. Oui, je pense qu'il est important, surtout dans cette élection, de s'engager dans la politique parce que ce qui se passe en Amérique affecte le monde entier.
Madame Zanz a souligné l'importance du vote pour les expatriés comme elle et a parlé de questions importantes pour l'avenir. Mina Anderson affirme que parmi toutes les questions importantes de cette campagne, quelques-unes se détachent.
The right to reproductive care is important.
Le droit aux soins reproductifs est important. J'aimerais que les gens aient le même droit que ce que j'avais quand j'étais jeune fille. La façon dont nous regardons et traitons les autres personnes dans le monde est importante. La question de la diversité croissante de notre pays et de l'ouverture de cette diversité à toutes les religions, à toutes les races, comme le dit notre Constitution, est très importante. Si vous mettez un parapluie sur tout cela, il s'agit vraiment de protéger la démocratie et de s'assurer que notre pays reste un partenaire fort, juste et égal avec le monde en faisant briller la lumière de la démocratie.
Pendant ce temps, les pubs et les cafés de la capitale Ouagadougou, fréquentés par les expatriés américains, bourdonnent de discussions et de débats animés sur les questions qui les intéressent à l'approche de la date butoir du 5 novembre.
Nous sommes arrivés au terme de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et à nos correspondants sur le terrain pour leur précieuse contribution. À la présentation, Nanit Talani. À la réalisation, Lionel Gaïma. À la technique, Calvin Fowler. Pour ne rien manquer de l'actualité, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et sur nos réseaux sociaux. Excellent début de journée à toutes et à tous.